Eh, dis donc, Jamy, on a retrouvé le respect, figure-toi.
Put some respect on my name. Come on, respect.
Lord, me a la respect.
Te respecte pas, bordel, Jimmy. Ça fait combien de temps qu'on se connaît tous les deux, hein?
3 jours.
Moi, pour le moment, je vais plutôt parler de respect.
Alors, il paraît que c'est toi qui fous l'embrouille à la maison. C'est pas bien, ça. Tu le sais, ça. Y a pas de respect. Et en plus, tu mets les cornichons et la moutarde sur tes pieds. Allez, marteau, c'est gonzesse.
C'est quand le bonheur? Cette question rythme les âges, on ne se la pose pas assez, très clairement. Veut-on notre propre bonheur ou celui du monde? Veut-on voir plus de couleurs dans cette époque grise? Veut-on que nos quotidiens soient ponctués de sourires, de moments gracieux, oubliant le métro, le boulot, nos bobos? Sommes-nous à la recherche d'un bonheur égoïste ou partagé? Nous sommes français? Donc on ne sait pas trop ce que l'on veut, on ne sait même pas à qui parler. Ce n'est pas pour rien si notre tendre contrée est à la 24e place du classement mondial du bien-être. Ce n'est pas pour rien si on est toujours le premier pays consommateur d'antidépresseurs au monde. Alors il y a du boulot pour connaître la gaieté non pas perpétuelle, parce qu'il faut quand même pas rêver, mais faire de notre vie une vraie cour de récré, comme si tout à coup on se retrouverait dans le film Mary Poppins, sauf qu'il ne s'arrêterait jamais. Dans ce podcast qui veut aussi apporter du bonheur et installer dans les oreilles des auditrices et auditeurs un pur moment de kiff, on a le plaisir de recevoir une pure experte en la matière, en la personne de Florence Servan-Schreiber, ça rime, dans ce nouvel épisode de Où est le respect qui commence maintenant. Bonjour Florence.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah ça va bien.
Bon, très bien. Avec moi, il y a quelqu'un que la Terre entière connaît et je crois même, alors
un
je
minima,
pense même
ouais.
savoir l'univers. Parce qu'ils ont envoyé des sondes sur Mars pour savoir si t'as une présence.
Bah clairement, le trou noir, c'était ça.
Le trou noir, c'était ça. c'est Raphaël, du coup. Voilà. Salut Raph.
Moi-même en chair et en os.
Comment
salut.
Comment tu te portes?
Ça va très bien et toi?
Très bien, ouais. Cool. Écoutez, tous les deux, vous êtes devant moi, ça me fait très plaisir. Voilà.
C'est plaisir partagé.
Ouais. Alors, on a un petit module, Florence Servan-Schreiber. Je voulais pas du tout annoncer avant l'émission, mais on a un petit module. C'est la question qui ne sert à rien.
Ok.
Voilà. Est-ce que vous êtes prête?
Ouais.
On n'a toujours pas de générique. Hein.
Toujours pas. Ça me fait l'impression que tu me regardes comme ça.
J'aurais beaucoup.
Je pense que la saison prochaine, on va pas se le cacher.
Ouais. Au contraire. Enfin, des gros brainstorming dans les startups. Ouais.
Ça va arriver.
Quel est votre plat préféré?
Des asperges.
Très bien.
À la vinaigrette.
Ok.
Ouais.
Eh ben,
vinaigrette à la moutarde, quand même.
Eh ben, génial. Ouais. Merci beaucoup.
Quel bien retour.
Ça mérite pas de générique, ça. Non, c'est bien. Avec un générique, ça va pas. C'est bien comme ça.
Même pas de retour à faire sur la réponse.
Ouais, non, complètement. Mais c'est clair, mais c'est tout Florence, quoi.
On passe à autre chose.
Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tout simplement, première question simple. Qu'est-ce que le kiff pour vous?
Ah, le kiff. Ça, c'est un truc assez précis. Ça, c'est un plaisir, mais il ne s'arrête pas là, il va se transformer en un merci. C'est-à-dire que de quelque chose qui vient de se passer, qui est agréable, je vais dire, bah tiens, tu sais quoi, pour ça, merci, à ce moment-là, ça devient un kiff. On passe dans la gratitude et c'est une émotion un peu différente du plaisir, carrément différente même.
D'accord, parce que moi, je le reliais à un plaisir personnel, une espèce de montée comme ça d'adrénaline. Voilà, on est en kiff, on connaît vraiment quelque chose de très, très plaisant. C'est juste en fait une gratitude, le kiff, pour vous.
Oui, alors la montée d'adrénaline, c'est juste du plaisir.
D'accord.
Ensuite, il faut se dire un tout petit truc en plus, il faut le transformer dans autre chose, en se disant, j'ai vraiment de la chance de vivre ça. Et à ce moment-là, ça, c'est dans mon vocabulaire, parce que le kiff, ça veut dire plein de trucs, hein, on peut trouver plein de définitions, tout dépend vers quoi on se tourne, mais en tout cas dans ma définition, c'est ce que l'on transforme en gratitude, donc on dit merci, donc à partir de là, il y a tout un tas de choses physiologiques qui vont se passer dans le corps, on a évidemment une lecture différente de la même vie, enfin voilà, après il y a plein d'effets secondaires à ça.
Très bien. Vous avez été diplômée à 22 ans.
Ah oui.
Première fois.
Ah oui.
Voilà.
Ouais, c'est possible.
Bien. Et le bac alors?
Le bac, c'était à 17.
D'accord.
Ouais.
Très bien. Vous avez un bac quoi, scientifique ou...
Non, économique.
D'accord.
Ouais.
Donc en fait, vous apprêtiez à rentrer en entreprise, quoi, d'abord?
Non, on peut pas dire ça. J'étais pas suffisamment bonne en maths, ni en sciences, ni en littérature, donc il restait l'économie. Non,
d'accord.
Voyons les choses comme elles sont, franchement.
D'accord. Et vous avez été diplômée à 22 ans et pas n'importe où en Californie.
Oui.
Et pas dans n'importe quel domaine. Déjà, pas n'importe quelle université, c'était la JFK University.
Ah oui.
La Jean-François Kahn Université.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Il est connu, mais jusqu'à très loin.
Il est connu jusqu'en Californie.
Grosse universitaire, ouais, en Californie.
Ouais. Et vous avez étudié un domaine qui m'intéresse beaucoup. Alors, je ne le connaissais même pas. Je connaissais la psychologie positive.
Ouais.
Mais la psychologie transpersonnelle,
C'est plus vieux que la psychologie positive.
Ouais. Ouais. Complètement. Alors, du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait ce que ça...
Alors, la
psychologie transpersonnelle, et qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement?
D'accord. Donc, la psychologie transpersonnelle, c'est une psychologie qui va allier à la fois la psychologie clinique, donc ça, on connaît bien, comment on soigne les maladies, et la spiritualité. Donc, ça veut dire que quand j'allais en cours, j'avais aussi bien un cours sur le deuil et la mort qu'un cours de danse soufie, par exemple. Donc, c'était l'alliance des deux. Je veux dire qu'il faut être californien pour ouvrir une université qui est capable de faire ça. Hein, ça se trouve que là-bas. On n'en a pas beaucoup par ici. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'étais allée là-bas. C'était justement pour pouvoir être exposée à tout ça en même temps.
D'accord. Et en fait, vous avez étudié à l'école de Palo Alto, c'est ça?
Alors, pendant ce temps-là, je travaillais à Palo Alto. L'école de Palo Alto, alors là, pour le coup, est plus âgée que moi.
C'est la Rolls-Royce de là. Oui,
ouais,
c'est
la
Rolls-Royce
de la psychologie positive. Il n'en reste plus de cette école de Palo Alto. Je crois que j'étais à peine née quand elle a vraiment eu lieu. Mais c'est vrai que j'avais donc j'allais en cours le soir. Et puis, dans la journée, j'avais un job qui était à Palo Alto, où je travaillais avec une femme qui faisait de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Mais elle l'avait fait avec les fondateurs de la PNL. Donc, c'est génial parce que tous ces gens que j'ai côtoyés sont des gens qui ont inventé ces différentes disciplines. Donc, c'était évidemment des cerveaux géniaux. Ils expérimentaient des trucs tout le temps. Ils prenaient des drogues dans tous les sens pour avoir absolument tout vécu.
Et vous, alors?
Alors, une fois de plus, c'était dans les années 80. Donc, ça, c'était déjà fini. Le LSD, ils avaient arrêté.
D'accord.
Et ils s'étaient mis à travailler avec ces outils-là. Donc, moi, j'étais plus dans la partie boulot. Non, nous, ça, c'était l'époque plutôt de l'exta, des choses comme ça.
Ouais.
Mais moi, en travaillant, on expérimentait moins à ce moment-là, en bossant.
On est vraiment né à la mauvaise époque, je crois. Hein.
Ouais, j'aime beaucoup l'idée de se dire c'est pour le travail. Moi, j'adore ça parce qu'en plus, pour le coup, ça peut vraiment amener à des résultats qui peuvent être amenés dans d'autres domaines que finalement simplement la prise de drogue ou des choses comme ça. Mais je trouve ça génial que ça puisse faire partie du travail, quoi.
Ah oui, mais il y a des chercheurs quand même toujours aujourd'hui qui expérimentent évidemment avec toutes les drogues possibles pour essayer de voir quelle ouverture de conscience on peut avoir. C'est vrai que la Californie est un territoire où ça fait un peu partie des mœurs. Il y a vraiment cette notion de on va ouvrir la conscience, donc on va l'ouvrir de toutes les façons possibles. Alors, notamment les stupéfiants en faisaient partie. Et il y a sûrement des gens dans des laboratoires qui continue à essayer.
Un petit pétard de temps en temps.
Ouais, ou bien plus fort.
Voilà,
Non, le pétard, ça c'est...
Pas les derniers dans les labos. Hein.
Et après, vous êtes revenu en France.
Après, je suis revenu en France, oui. Tout à fait.
Et le différentiel n'était pas choquant, parce qu'il y avait une ouverture d'esprit de malade quand même aux États-Unis et en revenant en France avec une...
En Californie en plus.
En Californie en plus, avec une conscience très très ouverte.
Oui.
Qui n'était pas le cas en France dans les années, même dans les années 80 en fait, quand on y regarde de plus près.
C'est jamais pareil. Même si vous y allez aujourd'hui, vous y passez un moment et que vous revenez en France, c'est jamais pareil. Principalement parce que quand on quitte chez soi, on apprend plein de choses, on fait plein de choses, et puis pendant ce temps-là, le chez soi reste un peu pareil, parce que c'est moins dynamique par rapport à ce qu'on vit ailleurs. Donc oui, le différentiel était en effet tout à fait important. Mais c'est un choix que j'ai fait. Je préférais rentrer ici avec ce que je savais de là-bas que de rester là-bas à continuer à expérimenter, parce que c'est un coup d'avion, si je puis dire. Enfin, on peut toujours y retourner, alors que j'avais plutôt envie de vivre ici. Je préférais le sens de l'humour des Français, je préférais me foutre de la gueule des gens, je préférais ce qui me venait naturellement, parce que là-bas, quand même, on prend sur soi aussi. C'est un autre mode de relation avec les gens.
C'est l'Orchestre National Symphonique de Paris.
Ouais.
Qui a fait ce jingle.
Je pense que si on écoute tous les épisodes, tu changes à chaque fois de groupe. Je pense.
Je ferai
une compilation de ça.
Il y a une semaine, c'était, j'avais dit quoi? C'était Quincy Jones.
C'est ça, exactement.
Pour le même.
Pour le même jingle, voilà. Ils sont plusieurs à travailler dessus. Qui a eu besoin de vos services après, quand vous êtes rentré en France? À qui vous êtes adressé, du coup, pour dire, bon, voilà, il y a plein de choses à apprendre, quoi, en termes de psychologie positive?
Alors, à ce moment-là, c'est pas encore la psychologie positive, parce qu'elle n'existe même pas.
Oui.
Donc, là, c'est juste donc, de la psychologie, en effet, et c'était plutôt, en effet, cette PNL, la programmation neurolinguistique, je suis rentrée avec ça sous le bras. Et assez naturellement, je me suis retrouvée à travailler, finalement, avec les gens qui sont dans des entreprises. C'est-à-dire que c'est là où les gens, une fois qu'on est sorti de l'école, il faut se rendre à l'évidence, ce sont les entreprises qui vont dépenser de l'argent pour former les gens, pour leur apprendre des choses, etc. Donc, c'est vers ça que je me suis tournée. Alors là, vous disiez tout à l'heure, peut-être mon bac économique allait me diriger vers l'entreprise. En tout cas, c'est l'univers dans lequel je me suis retrouvée.
Donc, vous avez déjà les codes?
Donc, à ce moment-là, je commençais à travailler. Donc, j'ai découvert les codes. Oui,
ouais.
C'est vrai que j'ai appris ces codes-là.
Et qu'est-ce que vous avez enseigné du coup en entreprise? Qu'est-ce que vous avez appris aux salariés?
J'ai appris aux gens à communiquer, à mieux communiquer, à se parler, à s'écouter. Donc c'est vraiment des techniques à ce moment-là qui étaient un peu nouvelles, dans l'idée que dans un bureau, on allait vous dire, tiens, regardez votre collègue Pascal, regardez comment il réagit à ce que vous lui dites, plutôt que de juste lui dire ce que vous lui dites. Donc ça pouvait servir à la fois en négociation, ça pouvait servir dans la manière dont on vivait les uns avec les autres. Et puis après, j'ai transformé ça en d'autres choses. Mais toujours dans l'univers de ces entreprises, notamment comment mieux écouter ses clients pour que là aussi les relations soient meilleures. C'est toujours un peu le fil conducteur de tout ce qui s'est passé depuis, c'est comment on fait pour vivre mieux. Et en effet, peut-être mieux se respecter, mais avec un peu d'outils.
Ouais, il y aurait du boulot à faire chez Orange, il y a quelques années.
Alors, Orange, ça c'est de nouveau, c'est arrivé bien plus tard. J'ai depuis beaucoup travaillé avec Orange.
D'accord, bien. Et là, ça va mieux.
Et alors, ils ont l'air d'aller mieux. Mais
ouais, il y a moins de suicides.
C'est parce que j'étais passée. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est dramatique.
En fait, ça a l'air marrant comme ça, mais c'est vrai.
Non, mais c'est dramatique. Vous imaginez, c'est le fait d'aller bosser qui met une telle pression sur les gens qu'ils ne peuvent plus vivre.
C'est quand même délirant. Alors, on a l'impression que. Alors, c'est très vague, mais il y a quand même un sentiment. Moi, j'ai un ami qui bosse chez Orange. Et il ne me dit pas, il y a des gens qui vont très très mal, quoi.
Il ne le dit pas ?
Il ne me le dit pas. Alors qu'il y a quelques années,
Il y a eu un moment vraiment où je crois que les gens allaient très mal. Ces énormes entreprises passent leur temps à se réorganiser.
Ouais.
Et au bout de la chaîne, il y a des gens dont on change les périmètres, les jobs. Et mine de rien, c'est ça la vie des gens. C'est le périmètre dans lequel je travaille, avec qui je fais quoi, qu'est-ce qu'on attend de moi, comment est-ce qu'on me parle, etc. Et tout à coup, ça change et ça crée des équilibres qui sont parfois insurmontables. Bon, maintenant, on y fait plus attention, ça c'est sûr, je crois.
Vous avez dit un mot qui me plaisait beaucoup et qui plaisait beaucoup à Raph juste avant, c'est le mot humour.
Oui.
Quel est votre style d'humour ?
Alors, j'ai la malédiction de vivre dans une famille où les gens sont très drôles. J'ai un mari qui est hilarant, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai épousé.
Ouais, vraiment. Bien rigolé à la maison en France.
Non, mais franchement, il est très très drôle.
C'est qui votre mari ?
Il s'appelle Alex.
D'accord.
Bon, salut. Il est très drôle. Et du coup, mes enfants sont très drôles aussi. On a fabriqué des gens qui sont très drôles. Donc moi, je suis la moins drôle de la famille. Donc mon style d'humour va être un peu complexé. C'est-à-dire que forcément, comme je suis moins drôle qu'eux, j'ai pas le droit de faire des vannes, parce que ce sont toujours eux qui nous font marrer, etc. Ouais, mais alors je me suis débrouillée autrement. C'est-à-dire que du coup, j'exerce mon humour à l'extérieur de la maison. Et alors, c'était sympa parce que j'ai donc décidé de créer une pièce de théâtre sur le sujet de la psychologie positive. Et donc, ils sont venus, ils étaient très embarrassés. D'avance, toute ma famille était au premier rang, gênée, mais ils étaient verts de gêne avant que le truc commence. Et je les ai vus rire pendant le spectacle, donc ça a été ma grande revanche.
C'est génial. Ouais. Ça, on va parler de la fabrique à kiff juste après. Mais avant ça, justement, votre famille est très, très large pour le coup. Est-ce que je me trompe si je dis que dans votre famille, chacun a vraiment son identité propre?
Quand vous parlez de ma famille, c'est ma famille, ce sont mes antécédents, frères, sœurs, bien sûr.
Parce qu'en fait, je vous le dis, moi j'ai eu l'impression d'interviewer, j'ai eu l'occasion d'interviewer Jean-Louis Servan-Schreiber, il y a pas mal d'années maintenant, et j'ai l'impression qu'il est moins porté sur votre science que vous.
Jean-Louis ?
Ouais.
Que sur ma science, c'est-à-dire
c'est plus de la philosophie, par exemple,
que
de la psychologie positive,
absolument,
par exemple.
Absolument. Donc,
qui dirigeait la revue Clé.
C'est
notamment.
Ça. Pour les auditeurs, Jean-Louis, c'est mon père, donc je le connais bien.
Ah pardon, oui, je crois que c'est d'accord, votre père.
Vous le saviez pas. Mais c'est vrai.
Je pensais que c'était un cousin.
Jean-Louis, non, c'est pas mon cousin, c'est mon père. C'est vrai qu'il est très philosophe.
Ouais.
C'est quand même lui qui m'a envoyé en Californie, donc il a cette notion, parce que quand j'étais petite, on est parti vivre là-bas. Lui était professeur pendant un an à l'université Stanford, et ça nous a tous transformés dans le sens où on a découvert qu'en effet là-bas, on pouvait s'y prendre autrement. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus straight, peut-être.
Ouais, complètement. Ouais. Et c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites de ma vie.
Ah oui,
ouais.
Bah, je lui dirais.
Bah, grand plaisir, clairement. Je crois qu'il a mon numéro en plus. Donc, on va y aller quand tu veux. Voilà.
C'est quand ce copinage.
Le message personnel.
Moi, vous avez une formule qui me plaît beaucoup, que j'ai vue à une interview, c'est la vie légère.
Oui.
Comment vivre légèrement, Florence ?
Alors, comment vivre avec plus de légèreté ?
Ouais.
Voilà. Légèrement, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais je trouve qu'on se trimballe tellement de trucs, tous, hein, que, quoi que ce soit. Vous savez, quand on croise quelqu'un dans la rue, on se regarde comme ça, là on est tous les trois dans le studio, on se regarde, on n'a aucune idée de ce qui se passe en vrai dans la vie des gens. On ne sait absolument pas contre quoi ils se battent, ce qui est en train de se passer, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils sont en train de gérer, etc. On ne sait pas.
Ouais.
Donc, partons du principe qu'on a tous des casseroles, des malcabines, de trucs qui ne se passent pas exactement comme on voudrait, parce que rien ne se passe jamais comme on voudrait. Donc, en effet, moi, ce qui me donne envie, ce qui me fait kiffer dans la manière dont je réfléchis ou dont je vais aborder ce que je fais, c'est comment est-ce que ça peut être plus léger. C'est-à-dire, donc en effet, se marrer, ça va être un des trucs de base. Donc c'est probablement pour ça que j'ai épousé Alex, parce que la vie allait être plus légère en me marrant, ça c'était très clair. Mais dans tout ce que je fais, c'est voilà comment on met autre chose dans le même bain pour qu'il y ait un peu plus de bulles. Parce que franchement, sinon...
Les auditeurs ne le voient pas, mais vous n'avez pas arrêté de sourire depuis avant. Depuis le début de l'émission, je veux dire. Pardon. vous avez dit dans une interview sur France 3 que le moment où l'on s'épanouit le plus, alors ça, j'ai pas trop bien compris, je vous avouer, c'est en travaillant.
Ouais, si.
Est-ce que si on dit ça aux ouvriers de chez Renault?
Alors, ça dépendra de quel ouvrier, ça dépendra de quelle tâche.
Exactement.
C'est même pas le travail, c'est quelle tâche. Ouais. Je vous explique.
C'est parce que ça m'avait vraiment interpellée.
Alors, pour bien comprendre, donc c'est un immense monsieur de la psychologie qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Déjà, il a un nom génial. Il est hongrois. C'est pas de sa faute. Et alors, Csikszentmihalyi passait son temps à demander aux gens qu'est-ce qui vous fait du bien. Quand êtes-vous heureux? Alors, les gens disaient, moi, c'est quand je vais à la plage. Il y en a d'autres qui disaient, moi, c'est quand je bouquine. Il y en a qui disaient, moi, c'est quand je dors, quand je picole. Bon, OK. Il s'est dit, on va pas y arriver comme ça. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une étude où il a équipé des gens de beepers. Donc, on portait un truc à la ceinture qui vibrait de façon aléatoire. Et quand le vibreur se déclenchait, il fallait arrêter ce qu'on était en train de faire, noter sur un bout de papier ce qu'on faisait, donc les circonstances dans lesquelles on était, ce qu'on était en train de faire, et comment on se sentait sur une échelle de 1 à 10. Ça dure 20 ans. Donc, il y a des centaines de milliers de gens d'instants qui ont été répertoriés. C'était pas toujours les mêmes. Ensuite, ça tournait.
D'accord.
On faisait pendant 3 semaines. Ensuite, quelqu'un d'autre y passait, etc. Mais sur 20 ans, il y a eu énormément d'instants comme ça. Et tout est renvoyé à Csikszentmihalyi et son équipe. Et là, ils ne conservent que les situations qui sont à noter à 8, 9 ou 10 sur 10. Donc, les moments où on était bien, les moments super kiffants. Et ils ont modélisé. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces circonstances? Ça s'appelle l'expérience de flux, le flow. Et en fait, voilà les ingrédients d'un flow comme ça. C'est un moment où on engage ses compétences vers un objectif pour lequel on va recevoir du feedback.
D'accord, ok.
Donc, je fais quelque chose que je sais faire, qui a un bon niveau de difficulté pour moi, parce que en général, si c'est trop facile, on s'ennuie.
Ouais.
Si c'est trop difficile, on panique.
Ouais.
Mais pour chacun d'entre nous, il y a comme ça des moments, c'est exactement à ma portée, voire un tout petit peu plus difficile. Donc, je suis quand même complètement concentrée. Objectif, ça, je sais à quoi ça sert. Feedback, ça veut dire que je sais à qui ça sert. Donc, il y a probablement quelqu'un d'autre dans la boucle. Et alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on est tellement concentré qu'on perd la notion de soi. La notion de soi, c'est la petite voix qui passe son temps à faire des commentaires. Voilà. Et qui dit, t'as bien vu qu'il allait faire chaud aujourd'hui, t'as mis 3 pulls, mais t'as bien vu qu'il allait faire chaud. Vous savez, la petite voix comme ça, qui lui parle toute la journée.
Encore ce matin.
Elle se tait.
Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe? Dans ces moments-là, on perd la notion du temps. Et donc, c'est comme ça que tout à coup, on va terminer, par exemple, cette émission en se disant, waouh, il y a une demi-heure qui est passée, on l'a pas vu passer, parce qu'on était
deux heures, quoi,
complètement concentré. Ouais. Donc oui, même en faisant une tâche qui peut être répétitive, ça peut tout à fait se produire.
Très bien. Est-ce que vous pensez que Raphaël a du flow?
Oui, Raphaël forcément a du flow, parce qu'il aime le son. Donc dès qu'il est concentré sur les sons, il ne pense absolument plus à rien d'autre, non, Raphaël?
Ça peut m'arriver, plus particulièrement avec la musique.
Oui, ça peut m'arriver,
complètement.
Mais l'attention que ça demande. Donc, alors, évidemment, ce qui est un peu décevant, c'est que quand on demande aux gens où est-ce que vous vivez des trucs comme ça, c'est en bossant. Mais pas que. Parce que par exemple, si on regarde bien, quand on fait l'amour, on engage ses compétences.
Ouais.
Ça dépend pour qui.
Vers un objectif. objectif, n'est-ce pas? Quand ça se passe bien, il y a du feedback, ok? Et donc, on perd la notion de soi, bien sûr, hein, et on perd la notion du temps. Ouais. En gros, il y a deux catégories d'activités. Il y a les activités qui nous coûtent de l'énergie et il y a les activités qui nous donnent de l'énergie. Et nous sommes dans ce flux et dans ce flow quand ça nous donne de l'énergie.
Eh bien, on en apprend pas mal, notamment sur ce que vous venez de dire là, à l'instant.
Mais du coup, quand les gens disent qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus heureux ? Parce que c'est ça, une des questions qu'on se pose en permanence, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus heureux ? La première chose qu'on peut faire, c'est de savoir quels sont ces moments-là pour vous, pour chacun d'entre nous. C'est quand je fais quoi ? Et une fois qu'on a la réponse, la deuxième question, c'est « et du coup, je le fais quand ?» Et là, on se rend compte que plus on est sous pression, par exemple, plus le premier truc qu'on va enlever, c'est un de ces trucs-là. Parce que, par exemple, aller boire un coup avec un pote, c'est un moment de flux.
Oui.
On engage ses compétences. Enfin, il y a tous les éléments. On est complètement concentré.
Après,
on pense qu'à
c'est
ça.
Fini, mais premier verre, deuxième verre.
Il n'y a plus trop de compétences.
On peut boire de l'eau hein, avec ses potes aussi. Mais,
non.
Mais bizarrement, c'est ces trucs-là qu'on fait sauter parce que c'est presque trop bon, comme si on n'avait plus le droit quand on commence à être trop stressé. C'est
exactement.
Ces trucs-là. Voilà. Or, ce sont ceux-là qui nous permettent d'emmagasiner ce dont on a besoin pour faire le reste des trucs qui n'est pas du tout aussi kiffant.
C'est magnifique. Et c'est sans doute ce que vous devez enseigner dans la Fabrique à Kiff. Fabrique à Kiff, dont on va revenir après dessus, après une petite période de musicale. Qu'est-ce que vous en dites? Une musique que vous devez connaître, qui s'appelle I Walk in on Sunshine. Vous marchez sur le soleil, Florence. Voilà.
À propos d'ailleurs. Oui. À propos.
And I just can't wait till day when you knock on my door.
Sabrina and the Waves, Now on Us. Non, excusez-moi, je pensais que j'étais en Angleterre.
Je pensais qu'on devait allumer une radio américaine.
C'est sans doute l'extra qu'on a pris avant l'émission. Pour faire de la recherche.
C'est pour le boulot.
Voilà, complètement, c'est pour le travail.
Pour le travail.
De plaisir, il en est question avec Florence Avant-Schreiber, qui est notre invitée. Voilà, comment ça va? Est-ce que vous avez kiffé, du coup, cette petite musique?
Ah bah oui, Sunshine complet, ouais,
magnifique.
C'est génial.
Et Raph, toujours, voilà, qui fait que de me couper. Et bon, ça, on verra après l'émission, mais tu fais que de me couper. Voilà, je viens de le dire.
Je voulais faire un blanc pour montrer que, justement, je te coupais pas.
C'était gênant. Alors, on va parler, j'ai envie de vous parler de la Fabrique à Kiff, votre pièce de théâtre à Troyes. Ouais. Comment est-ce que vous pouvez expliquer la genèse et comment vous le vivez?
Ouais. Alors, la genèse est très simple. J'allais avoir 50 ans. Déjà, quand on va avoir 50 ans, c'est un moment bizarre. Hein, c'est bizarre. Et il y a un type comme ça qui me dit, parce que j'étais allée, je passe mon temps à aller suivre des trucs. Alors là, ça se passait en Angleterre cette fois-ci. Et le gars dit, qu'est-ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez petit? Alors, je réfléchis comme ça. Et puis, je me dis, le seul truc qui me vient, c'est que quand j'étais petite, j'avais envie d'être Julie Andrews. Alors, Julie Andrews, vous avez dit tout à l'heure le mot magique.
Mary Poppins.
Ouais,
ah oui, Mary Poppins.
C'est l'actrice qui jouait Mary Poppins. Et entre autres, elle joue aussi dans La Mélodie du Bonheur, qui est un film de ma génération. Ah, donc, elle chante, elle danse, elle est anglaise, elle est absolument géniale, c'est une actrice formidable. Donc, je dis, je voulais être Julie Andrews, mais je ne suis pas anglaise, donc il y a plein de paramètres un peu compliqués. Bon, bref, le type, après, nous dit, question suivante, c'est « et donc ?» Et donc, il dit, on en fait quoi de ça si on a envie d'être Julie Andrews? Qu'est-ce que vous faites? Je dis, j'en sais rien. Il dit, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Et là, en fait, je me rends compte que je viens de dire un truc que je vais pas pouvoir ravaler. Et que ce que ça voulait dire, c'est que quand j'étais petite, j'avais envie de faire du théâtre, j'avais envie d'être dans un costume sur scène et tout ça. Et que ce truc, finalement, est encore vivant. Voilà, c'est comme une sève qui continue à pousser comme ça au portillon, vient de ressortir. Et cette fois-ci, soit je le ravale pour toujours, soit je fais quelque chose.
Oui.
Voilà. Donc je rentre à Paris, je trouve un cours d'impro. Non, c'était pas de l'impro. Je trouve un cours de théâtre, j'y vais, et là, on veut absolument me faire mémoriser un texte de Sylvie Joly. Ça ne rentre pas, ok? Donc je disais autre chose, et le prof me disait, mais Flan, c'est pas le texte. Et je dis, mais c'est pareil, ça veut dire pareil. Il me dit, non. Me dire en humour, c'est pas du tout pareil. Soit c'est soit c'est ça, soit c'est pas ça. Donc j'ai dit, je ne suis pas restée dans le cours et il y avait absolument rien à en tirer. Juste ça, mon cerveau ça marchait absolument pas avec ça. Mais ce qui a marché, c'est que en restant connectée quand même à cette envie et cette idée, je suis tombée sur deux autres femmes, Audrey Kuhn et Isabelle Payot, mon âge, presque, il y en a une qui est un peu plus jeune que nous, la pauvre, on dit toujours qu'elle a le même âge que nous, qui avaient envie de faire la même chose. Elles sont psy, elles, donc elles soignent vraiment des gens dans la journée, donc ça aussi c'est assez épatant.
Ouais.
Et nous avons écrit, nous étions quatre, puisque nous avons associé à ça notre metteur en scène, Béatrice de la Boulay, un talent de ouf. Et nous avons écrit la première masterclass sur le bonheur au monde, jamais, parce que j'ai vérifié auprès des Américains, personne ne l'avait fait avant.
Mais en fait, même pas à peine vérifié, parce que moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir vu ça avant.
Non, ça n'avait pas existé encore.
Et donc, en fait, vous discutez avec des gens, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, enfin, qu'est-ce qui les anime à leur vie.
Pendant
le show, c'est interactif.
Pas du tout, c'est une pièce extrêmement écrite au mot près.
D'accord. Mais il n'y a pas d'interactivité à un moment donné.
Il y a des exercices, en fait. On fait faire des exercices aux gens. Mais personne ne vient sur scène, on désigne personne.
Non, bien sûr, c'est pas chez. On n'est pas Laurent Baffy.
Non, mais surtout, les gens sont terrifiés quand on fait ça. Donc, on n'est pas du tout là pour ça. On est plutôt là pour leur apprendre des trucs et les faire kiffer. Et donc, on leur fait vivre des choses pendant. Et quand ils repartent, ils sont différents de quand ils sont arrivés. Donc, c'était un mélange d'enseignement, de rire. C'est vraiment mis en scène. Hein. Donc, il y a de la musique, on chante, on danse, tout ce qu'on avait envie de faire, en fait. On a pu le faire et on a tourné comme ça pendant 3 ans avec cette pièce-là.
Loin de moi, l'idée de vouloir confronter, en fait, les façons d'enseigner la psychologie positive, ou voilà. Mais j'ai l'impression que vous avez une très, très bonne façon de le faire, qui n'est pas celle, notamment, d'une des légendes du genre qui s'appelle Christophe André.
Ah, alors j'ai immensément de respect pour Christophe.
Bah, oui,
non, mais il y a une énorme différence. Il y a une énorme différence entre nous deux. Ouais. Christophe est psychiatre.
Ouais.
Donc lui.
Mais il écrit des livres sur le bonheur quand même.
Oui, il écrit des livres, mais je veux dire, il soigne des gens. Il a une expérience de terrain, une expérience. Non, moi je ne soigne personne. Je n'ai jamais de relation individuelle avec les gens. Je viens raconter. Moi, je suis comme ça une personne qui raconte ce que l'on sait. Et ce que la science a démontré, c'est ça mon boulot à moi. Donc, ça va être dans des livres, ça va être dans des conférences dans la journée, ça va être au théâtre le soir. Ça va être... je ne viens que dire pour informer le plus grand nombre. Christophe, lui, il va en effet soigner des gens. Et puis, il aura cette approche médicale et cette aura médicale qui fait qu'on l'écoute avec une autre oreille.
Ouais, j'ai interviewé aussi Christophe André. Et c'était, oui, ouais, la terre entière.
Et vous ne trouvez pas qu'on a envie juste de se mettre dans sa poche et d'y rester comme un kangourou? Moi, c'est, l'effet que ça me fait. On se sent très apaisé, très en sécurité.
Oui, ça,
en
c'est
fait,
vrai. Ça c'est vrai, mais moi, je trouve ça très. Je sais pas, il y avait quand même un peu de mal à l'aise.
Pas votre genre.
Non, ouais. J'avais envie de dire des blagues. En fait, j'avais l'impression que juste, comme vous le dites, son aura. Ouais. M'empêchait de le faire, comme s'il exerçait un poids sur moi, et en fait je posais des questions de façon totalement
coincée.
J'étais un frigo, quoi, alors que lui il était totalement ouvert à ça, hein, mais je sais pas, c'était une différence d'appréciation. Bon, voilà.
Oui, c'est pas le même style en effet, mais je n'ai pas du tout sa carrure. J'ai plus de liberté pour raconter des choses, et je les raconte probablement avec plus de couleurs parce que il n'y a aucun risque, parce que dans ce que je dis, il n'y a aucun risque.
Bravo, merci.
Le plaisir est pour moi.
Ouais, c'est bien lancé.
Je vous remercie.
Ouais, c'est incroyable. C'est le plus beau qu'on ait fait. Voilà. Vous participerez à la Happiness Week. Alors, vous me reprenez si je me trompe, à Buchinger Wilhelmy.
Oui.
Pourquoi n'y a-t-il pas une Happiness Week en France?
Il y a des Happiness Week à peu près partout.
Notamment en France.
Oui.
Mais comment c'est que c'est pas médiatisé? Moi, j'en entends jamais parler.
C'est vrai, moi non plus.
Ouais. Ah oui, non, parce que vous regardez pas les mêmes endroits que moi. Venez sur ma page Facebook, 3 kiffs par jour, parce que là, vous verrez, c'est à peu près tout est répertorié.
J'y suis allée, justement, c'est là que j'ai trouvé l'interview. Et j'ai pas vu de ça en France, quoi.
Non. Bon, là, il se trouve que c'est un programme particulier qui dure une semaine. C'est en Allemagne, dans un endroit un peu particulier, parce que c'est un endroit où on arrête de manger. Donc
ça s'appelle le ramadan.
Non, parce que le ramadan, on mange. Oui, alors que là, on mange rien du tout. Ouais. On ne boit, on ne fait que boire de l'eau pendant. Non, pas du tout. C'est pas dangereux du tout.
C'est même très bon pour la santé.
Mais c'est pas pour la santé, pour le cerveau. Mais c'est génial, ça.
Mais combien de temps de suite?
Ça dure 7 jours. Pendant 7 jours, on ne mange pas. Non, mais on va pas mourir et tout.
C'est un suicide collectif.
Quand on n'a pas ici, on se dit ça doit faire mal, on doit avoir faim et tout. Alors pas du tout. Ce qui se passe, c'est que quand on arrête de digérer, toute l'énergie que l'on met à digérer, qui est colossale, est disponible pour tout le reste. Donc, on est dans un état de clarté mentale absolue, on a des idées tout le temps, on a envie de bouger tout le temps, on fait du sport toute la journée, on marche, c'est vraiment très étonnant. Hein. Et le corps est tout à fait capable de résister. Ouais. On tiendrait 40 jours, donc là, il s'agit juste de 7
jours.
Non, je sais que ça semble dingue quand on ne l'a pas fait. Ouais. Et quand on l'a fait, on n'imagine plus de ne pas le refaire.
Ouais.
Voilà, c'est un de ces trucs, c'est vraiment, il y a avec ou sans, c'est un autre monde. Une fois qu'on a pénétré, on en revient plus.
Eh ben, écoutez, peut-être que je vais essayer.
Ça revient un peu à la mode. Enfin, moi, j'en entends beaucoup parler en ce moment du
jeûne.
Du jeûne, ouais.
Oui, parce qu'on essaye de se désintoxiquer à peu près de tout. Donc, c'est vraiment une façon de le faire. Et puis, franchement, si on regarde en effet dans toutes les religions, il y a un moment de jeûne. C'est pas du tout un truc impossible. Hein. Le corps n'était pas du tout habitué à manger la même chose pendant 12 mois. Ça non plus, ça s'est pas produit. Nos ancêtres, l'hiver, mangeaient très peu de choses.
C'est juste que l'air de la surconsommation...
On n'imagine pas, on pense qu'on va mourir si on arrête de manger tout le temps.
Si on
ne
boit pas de l'eau,
c'est ça, pas du tout. On va pas du tout mourir, l'organisme est très content. Et puis, bon, il y a plein de bénéfices et tout ça. Donc, c'est vrai que je vais, pendant une semaine, complètement arrêter de manger. Et en plus de ça, je donne des cours comme ça à mes co-curistes, on va dire ça.
Du coup, ça a l'air super cool, mais moi, j'ai l'impression quand même que la Happiness Week, du moins celle qui a lieu en France... Parce qu'il y en a une en France?
Non, alors il y a des Happiness Week un peu partout.
Un peu partout, mais alors ma question c'est de savoir s'il y en a en France.
Une comme ça, qui s'appelle comme ça, non, mais vous avez il y a des initiatives autour de ces questions de psychologie, notamment, alors je reviens à cet univers des entreprises, qui est une espèce de nébuleuse comme ça, mais où beaucoup, beaucoup de gens participent, parce que de plus en plus, on propose aux gens comme ça, et notamment sur une semaine ou deux semaines, d'avoir accès à des choses un peu différentes.
Alors pourquoi tu ne vas pas plus franchement?
Mais qu'est-ce que vous imagineriez? Allons-y, créons la semaine du respect du bonheur.
Mais
qu'est-ce qu'on y ferait?
Alors pendant une semaine, on fait des jeux, on fume des pétards, on boit des coups, on se rencontre, on parle un peu de son taf, tout ça. On essaie de trouver entre soi, entre des gens, des points communs, des relations, et que ce soit surmédiatisé.
Ça
devienne pas une religion, mais ça devienne une habitude, un peu comme il y a les Jeux Olympiques tous les 4 ans.
Ouais, il y a des semaines de l'optimisme, il y a des gens qui se donnent un mal fou autour de l'optimisme.
J'ai l'impression qu'à part les Chief Happiness Officer, en France, il n'y a rien. Voilà.
Bah pourtant, bah, y a la fabrique à kiff. La fabrique à kiff quand même. On a tourné pendant 3 ans. Je sais pas. On a vu plus de, je pense, 40 000 personnes.
Vous avez aidé 40 000 personnes à aller mieux, du coup.
On a proposé ce qu'on sait à 40 000 personnes.
Ouais.
Après, est-ce qu'ils vont mieux ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont venus voir, ils l'ont pris, on leur a donné, ils sont repartis avec. Donc ils sont libres d'essayer maintenant.
Ouais.
C'est ça.
Bon, bah, génial.
Ouais,
très bien.
C'est ça qui est kiffant.
Vous avez un agenda chargé.
Je travaille beaucoup, ouais.
Et vous ne vous arrêterez sans doute jamais de faire ce que vous faites, ça c'est sûr, je pense.
Je ne sais pas, j'aime bien...
Vous en avez encore pour au moins 100 ans.
Ah, ok, d'accord, je prends. je prends parce que depuis que je... Donc, il faut savoir que je me suis intéressée à ça parce que mon emploi précédent m'avait quitté. Hein. C'est comme ça que ça a commencé, c'est vrai que je me suis fait lourder de là où je travaillais, ouais. Et donc c'est ce qui m'a permis de retourner à l'université finalement, parce que sinon, quand, dans sa vie d'adulte, à quel moment est-ce qu'on dit ok, j'arrête et je retourne apprendre. Donc grâce à ça, j'ai pu le faire. Et c'est vrai que depuis, c'était maintenant il y a presque 10 ans, je n'ai jamais autant travaillé, mais je n'ai jamais eu aussi peu la sensation de travailler.
Ouais.
C'est-à-dire que...
c'est beau, c'est joliment dit ça.
Mais je n'ai plus l'impression d'être dans quelque chose de pénible parce que je suis probablement, je ne sais pas, alignée avec cette espèce de sensation de flux là, dont on parlait tout à l'heure, où je fais en sorte de faire à ma manière des choses dans mon vocabulaire qui m'intéressent, que j'ai envie de raconter aux autres. Et tant que je reste reliée à ça, bah, je n'ai pas l'impression de bosser.
On arrive à la fin de cette émission. Le générique va doucement s'installer dans nos oreilles. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous n'avez pas un peu peur parfois, ou est-ce que vous n'y pensez pas parfois à l'angoisse? Parce que j'ai l'impression... J'ai l'impression déjà que cette interview ne pouvait pas ne pas bien se passer.
Ouais.
Parce que vous mettez beaucoup de bonne humeur dans ce studio, vraiment. Mais alors, pour le coup, est-ce que vous n'avez pas peur de l'angoisse, parfois?
Mais évidemment.
Que ça revienne.
Non, mais à votre avis, pourquoi est-ce que je mets autant d'énergie là-dedans? C'est parce que je suis quelqu'un, en fait, de très flippé. Et pourquoi est-ce que vous croyez ce que je vous dis? Parce que malgré mon flip et mon angoisse profonde, je peux quand même vous parler de ça et je peux quand même faire les efforts nécessaires pour être dans cet état-là, essayer de vivre comme ça. Mais je suis un être totalement normal et plutôt plus flippé que la moyenne.
Ouais,
mais
d'accord.
C'est pour ça justement que j'y mets autant de cœur, parce que tout ce que je vous raconte là, avant tout, m'aide prodigieusement. Donc c'est pour ça que j'y crois.
Vous le faites parfaitement. Voilà, un grand...
Ouais. Ça donne envie, ça donne complètement envie de s'y mettre.
Ouais. C'était un espace d'évasion.
Ça suppose d'être angoissé avant, hein, donc choisissez bien, réfléchissez bien avant de vous y mettre, parce que ça suppose être flippé.
C'était notre Mary Poppins nationale dans Well Respect. Merci infiniment,
Florence. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci, un grand merci à toi, Raph.
Merci à toi.
Pour ce kiff. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Well Respect.